de représentants, hein, EDF.
Non, vous avez quoi comme problème?
Vous voulez des renseignements sur le nouveau compteur.
Linky, pour fuser, c'est de la merde. Allez.
Gérard Adelin avec moi. Gérald Adelin avec moi. Gérald. Et non pas Gérald Adelin, donc avec moi. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, vous êtes, installé dans le Loir-et-Cher.
Oui.
Oui, malheureusement. Mais bon.
Malheureusement.
C'est une plaisanterie. Vous êtes installé à Blois, c'est une vieille querelle entre le 37 et le 41, au sein de Radioactive. Voilà. Vous êtes en tout cas.
Vous n'aimez pas Studio Z ?
Au sein de. Si, c'est des amis. Vous êtes installé au sein de la région Centre-Val-de-Loire et vous êtes charpentier et menuisier.
Oui.
Et alors, dit comme ça, c'est un peu basique, mais vous avez une sacrée carrière. Vous avez essayé de plein de techniques, vous avez beaucoup voyagé.
Oui.
Et vous avez aussi abouti à une réflexion particulière sur votre métier, puisque vous travaillez exclusivement en écomatériaux.
Oui.
Et vous avez une démarche aussi un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, bien sûr.
Merci, c'est gentil.
Donc, oui, de formation charpentier-menuisier, les compagnons du Tour de France. Et très rapidement... déçu à l'époque par des produits qu'on devait intégrer dans les charpentes, des pétrochimies pour les traiter. Donc je trouvais que le bois ne sentait plus le bois, mais sentait le gasoil. Donc vers l'âge d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à ça, ça me déplaisait fortement, quoi. Et puis j'étais amené à voyager dans différentes régions, la Savoie, la Picardie, la Drôme, la Provence. Et j'ai rencontré des techniques de construction différentes. En Picardie, par exemple, le travail de la terre crue, où on fait des maisons en torchis. Donc le torchis, les enduits d'argile, les choses comme ça, donc des techniques que j'ai apprises. En Allemagne, parce qu'à une époque, je travaillais dans la Drôme, et il n'y avait pas d'isolant écologique en France. On allait chercher nos isolants en Suisse ou en Allemagne. Donc j'avais suivi des formations par rapport à ça. Et puis... petit à petit, après je me suis installé dans le Loir-et-Cher, et quand je suis arrivé dans le Loir-et-Cher, l'écologie ne connaissait pas. Donc ça a été assez compliqué, y compris avec la Chambre des métiers.
C'était en 1999,
En 1999. Hein. Donc, et moi je ne suis pas, dans une niche écologie, je suis militant, avant tout. Donc je n'ai jamais touché de laine de verre ou quoi que ce soit, j'ai toujours travaillé avec des matériaux éco.
C'est donc, quoi le point de départ de votre réflexion? Vous parliez tout à l'heure du bois qui sent plus le bois, de produits. C'est aussi le fait que ça atteint votre santé, vous, en tant
non,
que...
Non, ça n'atteint pas ma santé. Ça me dérangeait profondément de voir sur des chantiers des gens qui brûlaient tous leurs déchets, qui les enfouissaient dans les fondations des maisons en refaisant les terrassements. Voilà, il y a tout un
tas de choses. C'est toute une pratique, en fait, d'une profession qui vous déplaît.
Je voyais des types qui posaient de la laine de verre, des plaquistes qui posaient de la laine de verre à 50, 55 ans. Ils n'arrêtaient pas de pousser,
cracher leur poumon.
De voir l'allergologue, travailler sans masque, parce que ça ne se fait pas de travailler avec un masque, hein, c'est pas très viril. Là. Donc voilà. Et
donc vous êtes un peu à contre-courant de ce qui peut se faire, en tout cas dans la profession. Et c'est ça qui vous a amené à travailler de manière différente.
Ouais.
Et à partir de là, vous avez pu dérouler des techniques, en tout cas apprendre des techniques et connaître un autre milieu, on peut dire ça comme ça.
Oui, oui. Et puis j'ai voyagé, j'ai le travail de l'argile, du dadelac, choses comme ça, je l'ai appris au Maroc. Donc voilà, il y a plein de savoir-faire anciens. Alors ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des techniques, enfin des matériaux primaires, comme le faisait jadis. Mais avec toute l'évolution de la technologie actuelle qui va, au lieu de mettre du foin dans un plancher, on va avoir retravaillé ce matériau qui soit plus pratique, plus conforme aussi, parce qu'on a des normes qui sont quand même assez strictes.
Oui. Ça veut dire que toutes ces techniques, vous pouvez les appliquer dans tous vos travaux aujourd'hui?
Oui. Je ne fais que ça, oui.
Vous ne faites que ça. Est-ce que, alors, parce que c'est un peu la question pratico-pratique, on a toujours ce discours que bâtir en écomatériaux ou rénover en écomatériaux, c'est plus cher.
Oui, c'est vrai. Effectivement, c'est plus cher. Les coûts de matériaux sont plus importants.
De combien, à peu près?
Ça dépend des produits. Mais il y a une vingtaine de pourcents de différence. Je pense parce qu'on aurait un peu plus de production en matériaux écologiques, ça serait mieux. Et puis il y a aussi, par exemple, moi je travaille avec de la terre crue. La terre, c'est pas très cher, donc ça dépend aussi où on la prend, quoi. Après, il y a des chaînes commerciales qui font que du producteur jusqu'à l'artisan qui va acheter, ça dépend du nombre d'intermédiaires.
Ça fait gonfler le prix.
Et puis, bah, après, c'est du commerce, hein, c'est pas autre chose. Donc voilà, et puis il y a des plateformes de matériaux qui sont moins gourmandes que d'autres, etc.
Et on dit qu'on y gagne quand même à l'usage d'avoir des matériaux biosourcés ou des éco-matériaux.
Ben, on y gagne d'abord, je crois que c'est un choix, parce que quand moi, tous mes clients sont intéressés par...
Sont convaincus.
Oui, ils sont assez convaincus, ouais. Ou ils essayent. Il y a les coûts d'énergie grise à la production.
C'est-à-dire ?
Ben pour faire des matériaux comme des polystyrènes, des mousses de polyuréthane, ça nécessite énormément d'énergie pour arriver à le produire, alors que d'autres matériaux vont être beaucoup moins coûteux dans ce sens-là. La recyclabilité des produits aussi. Mmh. Le jour où il faudra recycler les fenêtres PVC, par exemple, où il y a des composants chimiques extrêmement violents, extrêmement dangereux. Les sites de production des PVC, c'est des sites Seveso, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est des sites qui sont quand même extrêmement dangereux. Donc le jour où il va falloir recycler ça, comment on fait ?
Ça aura un coût aussi.
Ben, ça aura un coût.
C'est
oui.
Ça, donc les... Mmh. Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'à une certaine époque, vous étiez obligé d'aller en Allemagne, en Suisse, chercher vos matériaux. Est-ce que ça a changé aujourd'hui ?
Oui.
Est-ce que ça change depuis 10 ans ?
Ça a changé. Les premiers à avoir fait du chanvre, c'est les chanvriers du Belon, Ariec-sur-Belon, en Bretagne. Mmh. Ils ont planté, produit, transformé. Ils ont été dans les premiers à produire des rouleaux de chanvre. Donc on s'est mis à travailler avec eux.
Donc on utilise le chanvre pour l'isolation, c'est
voilà.
Ça ?
Et puis après d'autres sociétés, d'autres entreprises s'y sont mis. Et puis maintenant en local, on a des producteurs de chêne vote, de paille de chanvre, pour faire des bétons de chanvre, des choses comme ça. Actuellement, il n'y a pas de production de rouleaux de laine de chanvre parce que ça demande des unités de production très coûteuses. Mais peut-être qu'on y arrivera. Après, il faut beaucoup de production.
Il faut que ça se développe.
Voilà.
Vous, au niveau local, vous arrivez à trouver tout ce dont vous avez besoin ou vous êtes obligé d'aller plus loin ?
Non, je vais plus loin.
En France, quand même ?
Oui, en France. Ouais.
Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que quand vous êtes arrivé il y a 15 ans dans le Loir-et-Cher, vous étiez un peu seul.
J'étais l'écolo de service.
L'écolo de service. Est-ce que ça a changé ça aussi au niveau de la culture dans les entreprises des artisans ?
Ben oui, à la Chambre des métiers, maintenant, ils ont appris le mot développement durable, donc...
Voilà. Je vous vois d'un bon œil.
Je suis un peu méchant, mais il y a un peu de ça, quoi. Il y a tous ces termes qui sont arrivés. Bon, en même temps, ça mène une conscientisation, effectivement. Sur Blois, il y a eu une thermographie aérienne qui fait que ça a révélé des fuites partout. Donc, il y a beaucoup à faire, effectivement. La rénovation de l'immobilier en France, c'est énorme. Après, ça a des coûts. Dans des mégapoles comme Paris, je me demande comment on va faire pour transformer du haussmannien, l'isoler, quand on voit le prix du mètre carré de l'habitat. Le faire par de l'ITE, d'isolation par l'extérieur, ben, c'est compliqué aussi.
Sur de l'haussmannien, c'est compliqué.
Voilà, ça, en plus on est sur le domaine public. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça hein, qui sont à travailler. Mais après, c'est aussi au pouvoir public de s'engager, quoi, de s'engager.
Et vous avez l'impression que cet engagement, il commence à faire jour
Je ne sais pas, on va voir la suite avec notre nouvelle présidence. Je ne sais pas, on verra.
Vous, à votre niveau, vous travaillez en tout cas avec cette démarche-là spécifiquement.
Ouais.
Vous arrivez à en vivre concrètement ?
Ben, depuis 1999, je suis à mon compte, donc ouais, ça va.
Parce que vous choisissez finalement votre manière de travailler. C'est vos clients qui doivent... voilà, il y a une
j'ai des clients qui
synergie
viennent...
qui doit se
voilà.
faire.
Après, il y a des clients qui viennent pour voir les différences de prix, hein, aussi, simplement. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une sensibilisation. Et puis, il y a des gens très convaincus. Je travaille aussi en chantier participatif, parce que j'ai des clients qui n'ont pas forcément le budget pour y aller, mais qui sont vraiment très convaincus. Donc, on s'organise, ils prennent une semaine de vacances, on fait ensemble.
D'accord. Et ça réduit les coûts, du coup, de main-d'œuvre.
Ça réduit les coûts. Il y a des chantiers aussi, des gens veulent enduire. Là, j'ai fait de l'enduit sur une maison de paille, et les gens ont voulu le faire eux-mêmes. Donc, j'ai fait une journée de formation pour les enduits de base. Et puis, quand ça a été fini, quelques semaines plus tard, j'ai fait une formation pour les enduits de finition.
Donc vous faites de la transmission aussi de savoir.
Ben voilà, c'est intéressant pour ça.
Alors effectivement, vous venez de la Drôme, qui est un département phare en France hein, dans ce domaine-là. Enfin, un des départements qui est beaucoup plus en avance, en tout cas, que le Loir-et-Cher ou l'Indre-et-Loire. C'est des techniques, du coup, de là-bas que vous essayez d'importer un peu ici, ou des manières de faire ?
Bon, dans la Drôme, c'est tout la Drôme, le Dauphiné, par exemple, en argile, la construction, c'est du pisé. parce que le sol recèle cette argile avec ces pierres, donc les anciens ont bâti de cette façon-là. Mais vous allez en Picardie, c'est une argile qu'on mélange avec de la paille. En Normandie, c'est de la bauge, donc c'est de la paille qu'on va mélanger par couche avec de l'argile. Il y a des techniques très différentes. Du côté de Toulouse, c'est des adobes, c'est-à-dire des briques de terre crue. Mmh. Donc en fonction des régions.
Et chez nous, c'est quoi?
Chez nous, il y avait du torchis jadis. En Sologne, il y avait une briqueterie à Ligny-le-Ribault qui faisait encore du torchis il y a une vingtaine d'années, puis ils ont arrêté faute de demande. Donc le problème, c'est quand on veut du torchis aujourd'hui, il faut le faire venir de l'Oise. D'accord. Parce qu'il n'y a plus personne.
Mmh. Et le torchis, c'est un isolant?
Non, c'est pas un isolant. Non, c'est pas très. Il y a des gens qui disent que c'est isolant, mais en fait, il y a très peu de paille dedans. Aujourd'hui, on a amélioré les techniques de torchis par on appelle ça de la terre allégée. Donc, c'est plutôt beaucoup de paille qui est trempée dans des bains d'argile liquide, qui fait que ça va faire un matériau un peu collant. Et par branchage, comme du béton de chanvre, on met des planches de chaque côté, on coule des murs comme ça. Et là, effectivement, on a des murs très très isolants. Et ça, c'est des techniques qu'on est en train de mettre au point. D'accord. En partant de ce que les anciens connaissaient, qui n'étaient pas confrontés à des problèmes de pétrole, de tout ce qu'on veut, et puis à la limite, qui mettaient 10 pulls verts pour ne pas avoir froid l'hiver. aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Donc, les choses évoluent. Voilà.
Et ça, c'est intéressant aussi pour vous de voir cette technique évoluer, d'être finalement toujours un peu en recherche.
Ben oui, j'y participe. Hein. Oui. On a créé une association qui s'appelle ASTER, l'association des constructeurs et de producteurs de terre crue, une association nationale, et qui aujourd'hui a des réglementations techniques, a des validations CSTB, a un master 2 à l'école d'architecture de Grenoble en terre crue. Donc on a des ingénieurs qui viennent, des architectes, des ingénieurs qui viennent du monde entier, même des pays dans lesquels on vit encore dans de la terre crue. Il y a des savoir-faire qui s'oublient, donc ils viennent travailler. Ici, on a réappris aux Marocains à faire des coupoles en terre crue, en briques de terre crue, parce que c'est un savoir qui avait été oublié. Il y a des projets Leonardo 2 avec des jeunes sur toute l'Europe.
Des projets universitaires ?
Voilà, qui circulent avec un carnet de voyage et qui vont apprendre des techniques de terre crue dans différents pays. Donc il y a des choses qui bougent, effectivement.
Mais bon, ça bouge, oui, c'est très long.
Oui.
Donc il y a du boulot. Ouais. Merci beaucoup Gérald Adelin d'être venu ici. Donc je rappelle que vous êtes charpentier et menuisier. En tout cas qu'on peut vous solliciter pour de la charpente et de la menuiserie. C'est assez vaste en gros.
Et des enduits d'argile.
Et des enduits d'argile
et
évidemment.
Et d'isolation.
Ah oui, tout ça.
Bah oui.
Et vous travaillez le bois aussi en plus, je vois.
Absolument.
Donc on peut refaire sa maison avec vous.
Pas complètement.
Presque.
Non, pas complètement, j'ai pas cette prétention là. Mais oui, ouais, effectivement. Et puis des conseils aussi.
D'accord. Installé à Blois.
Ouais.
Voilà. Merci beaucoup, Gérald Adelin.
Merci.